Voilà. Alors, je commencerai cette intervention consacrée à une figure un peu oubliée, qui est celle de Benjamin Crémieux, par une citation qui l'évoque vraiment de façon très émouvante et juste, une citation tirée de l'hommage que lui rendit son ami Claude Aveline dans l'hebdomadaire Les Lettres françaises, en octobre 1944, lorsque fut confirmée la nouvelle de sa mort au camp de concentration de Buchenwald en avril 1944. Alors je lis, « Parler de Crémieux, c'est parler du peine. Dès le premier jour, il en a été l'âme française. Mais quelle tâche! Combien de fois ses vrais amis ont-ils souhaité qu'il cesse d'en porter seul le poids? Il disait le souhaiter aussi. Je n'en suis pas sûre. Il n'aurait plus vécu sans elle. Il l'a préférée à ses propres livres. Un roman, épuisé alors qu'il devrait être un classique de la littérature sur l'adolescence, deux ou trois livres de critiques, quelques traductions, d'ailleurs célèbres, des articles dont la plupart eussent mérité plus que tant d'autres de reparaître en volume. Telle est l'œuvre écrite de Benjamin Crémieux. » Benjamin Crémieux fut en effet un des principaux critiques de la Nouvelle Revue française, son critique théâtral, et fut membre du comité de lecture de Gallimard. Italianisant, il traduisit et fit jouer l'œuvre en France de Pirandello. Certaines de ses représentations sont restées dans la mémoire des amateurs de théâtre. On lui doit un des premiers essais sur l'œuvre de Marcel Proust. Comme l'a rappelé Claude Aveline, il fut la cheville ouvrière du Pen Club français. Pen Club, né au début 1922 dans le sillage du Pen Club anglais, fondé par une femme écrivain, féministe et pacifiste, en réaction contre le nationalisme de guerre, sous le signe de la reprise des relations entre écrivains des nations belligérantes. Alors, s'il est bien une association qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, nourrit le rêve d'une République des lettres, rêve sans doute élitiste d'une République des esprits, ce fut bien la Fédération internationale des Pen Clubs, lancée à l'initiative du romancier John Galsworthy, qui en assura la présidence jusqu'à sa mort en 1933, auquel succéda H.G. Wells, puis Jules Romain en 1936. Un des principes les plus connus de la charte des Pen Clubs proclamait « La littérature, si elle connaît des nations, ne connaît pas de frontières et les échanges littéraires doivent rester en tout temps indépendants de la vie politique des peuples. » Et cette charte enjoignait de répudier les haines de race, de classe et de nation. Alors, au sein de ce Pen Club français qui choisit de se prénommé Cercle littéraire international, appellation plus conforme à la tradition lettrée française, plus conforme que celle de club, Benjamin Crémieux, son secrétaire général, joua un rôle essentiel aux côtés des présidents en titre, Paul Valéry, de 1936 à 1935, qui lui laissa l'essentiel de l'animation, comme l'a écrit Michel Jarretti dans sa biographie de Valéry, puis aux côtés de Jules Romain, de 1936 à 1939, ce dernier s'intéressant surtout à son rôle de président international. Le Pen Club se proclamait Association mondiale apolitique d'écrivains. Selon le désir de John Galsworthy, le Pen Club voulait se tenir hors de la politique, des idéologies, des partis et des États, et entendait agir au nom des seuls et intangibles principes de la liberté d'expression, ce qui n'empêchait pas les interventions auprès des gouvernements, mais sans remettre en cause les idéologies de ces États. Alors, quelques chiffres. Le Pen Club français groupe en 1931, d'après Crémieux, 260 membres, écrivains, traducteurs, éditeurs. Et en 1937, la Fédération revendique 60 centres de par le monde et 500 membres. Alors, mon exposé se titulera autour de deux parties. La première sera chronologique. Benjamin Crémieux au Pen Club, un engagement européen sous le signe de l'esprit de Genève, 1922-1932, et deuxième partie consacrée aux années 30, l'inévitable irruption de la politique 1933-1939. Alors je rappellerai d'abord brièvement qui est Benjamin Crémieux, né à Narbonne en 1888, agrégé d'Italien en 1911, mobilisé en août 14, donc la génération du feu. Il part comme tant d'autres intellectuels juifs assimilés en patriotes républicains et fera 4 ans de guerre, sera blessé 3 fois et reviendra avec la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Au sortir de la guerre, Benjamin Crémieux, conscient d'être un survivant, pense que son devoir et celui des anciens combattants est de travailler à la réconciliation européenne. avant 1914, il a connu une première expérience d'échange culturel à l'Institut français de Florence, où Julien Luchaire l'appelle à professer et le charge de diriger un office d'information et d'échange destiné à favoriser les relations entre la France et l'Italie. Au début des années 20, après avoir été brièvement tenté par une action au sein du Parti socialiste, il se trouve en phase avec l'idéal de réconciliation et de paix du Pen Club. Remarquons qu'il n'a pas été attiré par la grande lueur à l'Est, par la révolution russe, qu'il ne subit pas l'attraction de la révolution russe et du communisme naissant. Dans le dilemme posé par un autre jeune écrivain combattant, Pierre Drieu-La Rochelle, qui ne s'est pas encore tourné vers le fascisme, dans son ouvrage paru en 1928, Genève ou Moscou, il choisit sans hésiter Genève, c'est-à-dire la paix par le droit et non la paix par la révolution, qui tentera un certain nombre d'intellectuels. Un engagement qui s'accorde bien avec son activité professionnelle au Quai d'Orsay. Il y est en effet détaché par l'éducation nationale au service de presse où il dirige le bulletin de la presse italienne puis de la presse étrangère. En 1940, il sera mis à la retraite à 53 ans par le gouvernement de Vichy. Au début des années 20, Benjamin Crémieux incarne au sein d'un pen club français qui a reçu l'adhésion de plus d'une centaine d'écrivains, mais qui ne sont pas tous actifs, c'est le moins qu'on puisse dire, l'esprit de la coopération intellectuelle dont Jean-Jacques Renaudier nous a si bien parlé ce matin. C'est d'ailleurs au siège de la revue L'Europe Nouvelle de Louise Weiss, cette grande européenne, qu'eut lieu la réunion constitutive du Cercle littéraire international le 28 janvier 1922. Citons le rôle d'intermédiaire d'un jeune écrivain brésilien vivant en France, Dominique Braga, collaborateur de l'Europe Nouvelle, qui va devenir chef des relations littéraires à l'Institut international de coopération intellectuelle, dépendant de la SDN, dont le siège est à Paris et le directeur Julien Luchaire. Alors, cette parenté entre l'esprit du Pen Club et celui de la coopération intellectuelle sera encore plus flagrante lorsque Paul Valéry, qui préside la section artistique et littéraire de la sous-commission de coopération intellectuelle de la CDM depuis 1925, acceptera en 1926 la présidence du Centre littéraire international. Alors, dans l'esprit de la reprise des relations culturelles entre écrivains des pays ex-belligérants, il faut noter que Goldsworthy a poussé à l'admission des écrivains allemands dans la Fédération. Et puisqu'on a dit hier que cette admission n'allait pas de soi dans les institutions académiques, eh bien, il faut souligner que Open Club, les écrivains allemands ont été admis pratiquement dès le début. Et que Goldsworthy avait insisté pour qu'un des premiers congrès internationaux se tienne à Berlin. Et il put se tenir, effectivement, en 1926. Benjamin Crémieux, de son côté, fait partie du petit nombre d'écrivains français comme André Gide, Georges Duhamel, Jean-Richard Bloch, qui veulent reprendre les contacts avec les écrivains allemands, acceptent de se rendre en Allemagne pour y faire des conférences, et ils sont témoins de l'effervescence artistique du Berlin des années 20. Alors, Crémieux, par exemple, en 1927-28, est invité à faire des conférences sur le théâtre ou sur la littérature contemporaine à Berlin. Et le jeune Pierre Berthaud le notera dans sa correspondance. Il est convié à Leipzig par le professeur de littérature française à l'université, l'ami de Stefan Zweig, Wilhelm Friedman. Walter Benjamin publiera un entretien de Benjamin Crémieux dans Die Literarische Welt en décembre 1927, où il présente Benjamin Crémieux comme un critique renommé, un connaisseur de Proust, et il loue sa conception de la traduction. Alors, l'apport le plus durable de Benjamin Crémieux, avec l'aide de Dominique Braga, à l'œuvre de la coopération intellectuelle, est l'institutionnalisation d'une collaboration entre la Fédération internationale des Pen Clubs et l'Institut international de coopération intellectuelle en ce qui concerne les échanges littéraires et les traductions. Tous deux font admettre la présence d'un délégué de l'Institut au Congrès des Pen Clubs. Et ces liens subsisteront dans le cadre de l'UNESCO, où Roger Caillois reconnaîtra ce rôle au Pen Club, qui s'appelle, après la Deuxième Guerre mondiale, le Pen International, au point de vue des instances internationales, en ce qui concerne le programme des traductions. Dans les années 20 et 30, Benjamin Crémieux incarne avec talent au sein de la Fédération la prétention française à jouer un rôle privilégié dans le domaine des échanges littéraires. Pour lui et ses pairs, qui partagent cette forme de nationalisme littéraire, ce rôle va de soi. Le français est d'ailleurs, avec l'anglais, une des deux langues officielles de la Fédération. Une initiative prise par Crébieux et Braga est particulièrement intéressante. La mise au point, en liaison avec l'Institut international de coopération intellectuelle, d'un ouvrage qui devrait être préfacé par Paul Valéry, Thomas Mann et John Galsworthy. On remarque qu'on retrouve constamment les mêmes noms, mais seul John Galsworthy donnera un texte. Un ouvrage qui paraîtra en 1934 aux éditions Rieder sous un titre bilingue, Annuaire international de la traduction, International Yearbook of Translations, avec un avant-propos de Benjamin Crémieux. C'est un précieux répertoire, pays par pays, des traducteurs, critiques et libraires intéressés par les littératures étrangères et les traductions, avec les noms et les adresses. Et j'ai trouvé un exemplaire des épreuves de cet ouvrage dans les archives privées de Benjamin Crémieux, qui avait été confisqué par les Allemands et qui ont été récupérés par les Soviétiques. Et la Gestapo avait été très intéressée par ce répertoire qui donnait des noms et des adresses. On voyait les notifications des officiers de la Gestapo. La préface de John Galsworthy, prix Nobel de littérature 1932, pour mieux s'entendre, proposait de choisir le français comme langue universelle de la traduction. Je cite, « C'est une langue claire, agréable, précise et comme telle, le meilleur médium universel de traduction littéraire et scientifique. En un mot, il représente la ligne de moindre résistance. » Benjamin Crémieux reprendra cette même idée dans un article de l'hebdomadaire Marianne, La France, traductrice universelle, en avril 1934. Alors, j'évoque très rapidement un des rites les mieux établis du Pen Club, le dîner, forme d'hospitalité réciproque chère à la fondatrice, à mi-chemin entre réunion de travail et événements mondains, souvent précédé ou suivi de la réunion de l'Assemblée générale, auquel sont conviés des membres des Pen Clubs étrangers, des étrangers de passage qu'on veut honorer, et des personnalités du monde des lettres. Pour les seules années 20, toute une délégation européenne fut reçue de Stefan Zweig à Ivan Bounine, Pirandello, John Despassos, Huxley et j'en passe. Il y eut quelques réunions mémorables, comme un dîner offert en l'honneur de Thomas Mann lors du voyage qu'il effectua à Paris en janvier 1926. Pendant les années 30, Benjamin Crémieux poursuit cette traduction des dîners, mais certains vont prendre la forme de manifestations de solidarité envers les exilés d'Allemagne et d'Autriche, et ainsi seront reçus Anne Richemann, Émile Ludwig, Alfred Döblin, Franz Werfel, Joseph Roth, Ernest Stoller. Alors, deuxième partie de mon intervention, les années 30 ou l'irruption de la politique. Alors, la montée des dictatures en Europe pendant les années 30 contraint la Fédération à une certaine évolution de son apolitisme principiel qui devient de moins en moins tenable stricto sensu. Déjà en 1932, comme l'a rappelé Michel Jarretti, au retour d'un congrès de la Fédération à Budapest, le président Galsworthy a protesté auprès de l'amiral Horthy au sujet de la répression des écrivains et des journalistes en Hongrie, mais il le fait en son nom propre, par une lettre privée, sans mettre en question la Fédération. La position en fait majoritaire est représentée par le nouveau président élu en 1933, qui est H. G. Wells, qui est appuyé par l'immuable secrétaire international anglais lui aussi, Herman Hould, qui également revendique une stricte neutralité. Cependant, des membres des Pen Clubs appartenant à la gauche et à l'extrême gauche, comme Arthur Koestler dans le Pen anglais, Ernst Stoller dans le Pen allemand, Pablo Neruda au Chili, au sein de leurs Pen Clubs respectifs, réclament un interventionnisme plus actif. Mais la date marquante dans l'histoire de la Fédération fut l'exclusion du Pen Club allemand, d'où ont été chassés les opposants au régime. Heinrich et Thomas Mann, Erich Maria Remarque et Emil Ludwig. L'exclusion eut lieu à l'été 1933 lors du congrès international réuni à Raguse, Dubrovnik, et je renvoie sur ce point à l'ouvrage très complet de Jean-Michel Palmier, Weimar en exil, qui étudie en détail le congrès de Raguse en évoquant les vifs débats qui entourèrent ce problème de l'exclusion du parti allemand, du PEN allemand. Crémieux et Romain jouèrent un rôle de premier plan dans la décision, et s'attachant notamment à faire basculer le président Wells, qui aurait préféré une position d'attente. Notons que le PEN Club allemand a été exclu de la fédération, non pas à cause du ralliement de sa direction au régime hitlérien, mais bien parce qu'il n'avait pas voulu voter la motion dénonçant les atteintes aux libertés d'expression et les persécutions en Allemagne, en particulier les persécutions antisémites. Après la nazification du PEN Club allemand, des PEN Clubs en exil se forment, le PEN Club allemand en exil avec Heinrich Mann comme président et Rudolf Holden à Londres comme secrétaire général. Alors, le moment serait venu pour moi de m'arrêter sur l'évolution personnelle de Benjamin Crémieux. En ce début des années 30, comme tant d'autres de ses contemporains, il a conscience de vivre la fin de l'après-guerre et de ses espoirs. Le titre de l'essai qu'il publie en 1931, « Inquiétude et reconstruction », dit bien l'ambivalence de son regard quant à l'avenir européen. Il écrira avec nostalgie, un peu plus tard, « C'en est fini de l'aimable cosmopolitisme locarnien, de ces échanges incessants entre capital, d'écrivains et d'artistes qui faisaient le charme des années 1928-1930 et qui nous ont permis d'accueillir à notre table à peu près tous les grands écrivains d'Europe et d'Amérique. » En 1934, il se définit comme un observateur politique indépendant du parti. Et s'il incline toujours vers la gauche, il sera comme Jules Romain favorable au Front populaire, il reste aux marges du vaste mouvement de mobilisation antifasciste né au lendemain des événements du 6 février 1934. Ainsi, il n'adhère pas au comité de vigilance des intellectuels antifascistes présidé par Alain, Paul Rivet et Paul Langevin. Cependant, signe du choc produit par ces événements, il donne deux chroniques d'actualité politique, ce qui n'était pas son habitude, dans la Nouvelle Revue Française, où il commente l'actualité politique. Chronique qui provoque une prise à partie de Benjamin Crémieux par Charles Maurras dans l'Action française, celui-ci lui déniant le droit de juger de la situation politique française parce que juif. Et en réponse, Crémieux publiera dans la NRF une remarquable réfutation de l'antisémitisme maurassien. Mais si Crémieux garde son indépendance par rapport aux organisations de l'antifascisme intellectuel où le Parti communiste revendique un rôle prépondérant, il appartient bien au camp antifasciste, comme le montre la signature qu'il donne en octobre 1935, au moment de l'invasion de l'Éthiopie, au manifeste des intellectuels de gauche, principalement rédigé par Jules Romain, manifeste publié en riposte au manifeste des intellectuels de droite pour la défense de l'Occident. Crémieux, en 1937, au congrès international du PEN Club réuni à Paris, évoquera, en parlant du discours de Guglielmo Ferrero, Crémieux dira sa sympathie pour cette famille politique, idéologique, qu'il appelle les antifascistes libéraux. Et ceux-ci représentent en fait les antifascistes qui refusent de se ranger sous la bannière de l'antifascisme compagnon de route ami de l'URSS, dont un André Malraux est alors un des plus célèbres. Alors, il n'est pas possible ici de faire l'histoire des PEN Clubs pendant les crises des années 30, et je l'aborderai simplement au travers du prisme de l'action de ces deux responsables du PEN Club français, Jules Romain et Benjamin Crémieux. En 1936, la Fédération des PEN Clubs, pendant la guerre d'Espagne, maintient une position de neutralité politique, ne se prononce pour aucun des deux camps en présence et déplore les victimes des deux côtés, comme on le voit par une déclaration au moment de l'assassinat de Federico Garcia Lorca. Ce qui n'empêcha pas le PEN Club de Londres de réclamer la libération d'Arthur Koestler, emprisonné par les franquistes à Malaga. Alors, la Fédération des PEN Clubs se tient effectivement sur une ligne très en retrait de celle de l'Association internationale pour la défense de la culture, dont Aragon est l'actif secrétaire général et qui est la pièce maîtresse de l'antifascisme intellectuel compagnon de route. Cette association organise un ample mouvement en faveur de l'Espagne républicaine qui culmine lors du second congrès pour la défense de la culture, qui se réunit en juillet 1937 en Espagne républicaine et se clôt à Paris du 14 au 18 juillet 1937. Et on y entendra Aragon, Jean-Richard Bloch, Julien Binda, André Chanson, André Malraux, Claude Avenil, Bertolt Brecht, Ilia Ehrenbourg, Pablo Neruda, Stephen Spender, toute l'élite antifasciste compagnon de route. Cependant, bien que le Pen Club soit en retrait par rapport aux organisations antifascistes liées au mouvement communiste, l'évolution qui s'y produit sous l'influence de Jules Romain et Benjamin Crémieux est assez visible pour que Paul Valéry fasse part de ses réserves et, comme nous le dit Michel Jarretti, le pousse à abandonner une des raisons qui le pousse à abandonner la présidence du Centre français en 1935. La discussion du Pen Club italien en 1936-1937 s'inscrit dans cette inflexion de l'apolitisme. Présidé par Marinetti, rallié au régime mussolinien, Marinetti multiplie les déclarations qui glorifient, je cite, la guerre comme hygiène morale, ce qui est évidemment en contradiction suprême avec la charte du Pen Club. Et le Pen Club italien est sous la menace de l'expulsion, menace explicitement évoquée par le président Wells et le centre de Londres. Alors je ne peux qu'évoquer cette affaire Marinetti qui éclate en septembre 1936 lors du congrès international de Buenos Aires. On a parlé ce matin de l'importance du continent sud-américain dans le développement de cet esprit favorable à la coopération intellectuelle. Et on a cité effectivement une réunion qui a eu lieu à Buenos Aires, je crois, en 1936, qui correspond justement avec ce congrès international des Pen Clubs, qui fut assez important, puisqu'il fut discuté le cas de l'exclusion du Pen Club italien. Et ce fut au cours de ce congrès que Jules Romain fut élu président international. Et comme le rapporte fort bien Olivier Rony dans sa biographie de Jules Romain, Crémieux et Romain y jouèrent un rôle essentiel. Alors si Marinetti évita finalement d'être expulsé de la fédération, du moins dut-il abandonner la présidence du Pen Club italien à la veille du Congrès international de Paris en juin 1937. Alors, dire quelques mots sur ce Congrès de Paris, dont Jules Romain, président français et président international, ainsi que Benjamin Crémieux, ont voulu faire une manifestation solennelle de l'influence française, d'autant plus qu'il coïncide avec l'ouverture d'une maison internationale des Pen Clubs à Paris, voulue par Romain au grand déplaisir du secrétaire international Hermann Hull, qui y voyait une concurrence avec le siège du comité exécutif de la Fédération à Londres. Le Congrès de Paris, qui réunit des noms connus de la littérature européenne et américaine, eut des hôtes d'honneur comme José Bergamine, Guglielmo Ferrero, et revêtit une tonalité antifasciste certaine. On y vit Karel Čapek, Franz Werfel et Gabriel Mistral, dont on a parlé aussi ce matin. Et un message de Stefan Zweig fut lu à la tribune. Jules Romain y prononça un discours qui met l'accent sur la défense des libertés menacées et qui fut publié par Gallimard sous le titre dans un recueil intitulé « Pour l'esprit et la liberté ». Alors, conjointement à son action au sein du Pen Club, Benjamin Crémieux, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, multiplie sans relâche les démarches auprès des autorités administratives, alerte ses relations personnelles dans le monde des lettres, tant pour régulariser la situation des exilés en France que pour faire obtenir des visas de sortie de ceux qui veulent quitter leur pays d'origine. Il s'indigne de la politique restrictive des gouvernements français et appuie l'idée d'un passeport Nansen pour les réfugiés. Un cas lui a été particulièrement à cœur, celui du professeur de littérature Wilhelm Friedman, qui fut un des pionniers des relations culturelles franco-allemandes, qui était alors à Paris en charge d'un enseignement à la Sorbonne. Wilhelm Friedman, qui était autrichien. Je renvoie au beau livre de Claudine Delfis, Wilhelm Friedman, Le destin d'un francophile. Bien que Benjamin Crémieux se soit dépensé sans compter, comme en témoignent ses archives, il échoue à obtenir la nationalité française à Friedman, ce qui lui sera fatal, puisqu'il se suicidera en décembre 1942 dans le sud de la France. En charge des relations avec les centres étrangers, Crémieux se préoccupe particulièrement du soutien au centre tchécoslovaque, dont le président est Karel Čapek. Il entretient une correspondance suivie avec sa secrétaire, notamment à la veille de la réunion du Congrès international de Prague en juin 1938, qui fut la dernière réunion internationale avant la Deuxième Guerre mondiale de la Fédération des Pen Clubs. Ce congrès, qui avait été convoqué avant les menaces hitlériennes sur l'existence de la Tchécoslovaquie, revêtit un éclat tout à fait particulier. Plus de 250 écrivains y assistèrent. La délégation française comprenait Benjamin Crémieux, Outre-Jérôme Romain, Luc Durtin, André Terrible, Adrienne Monnier, Claude Aveline et Jean Bruller, le futur Vercors. Un fait très significatif s'y déroula. L'ancien président Wells, au nom des principes de sa conception du libéralisme, tenta d'empêcher le vote d'une motion présentée par le Centre Yiddish qui stigmatisait les persécutions antisémites. Et il fallut toute la force de conviction de Jules Romain et de Benjamin Crémieux pour le convaincre que la charte condamnant toute discrimination raciale condamnait de ce fait la discrimination antisémite. En 1938-39, la conscience de l'urgence de la mobilisation dans la défense des libertés menacées en Europe amène le Pen Club à s'associer à une action commune avec l'association rivale, si on peut dire, de mouvances communistes, qui était l'Association des écrivains pour la défense de la culture. D'ailleurs, des écrivains, et des immigrés, notamment des immigrés antifascistes allemands, adhèrent simultanément au Pen Club et à l'Association des écrivains pour la défense de la culture. Alors, des manifestations communes en faveur des exilés ont lieu, puis après l'annexion de la Tchécoslovaquie, des démarches en faveur de la création d'un centre culturel tchèque à Paris. Ainsi, Jean Cassou entre sur ce sujet en relation avec Benjamin Crémieux. En 1939, Aragon propose à Jules Romain, au nom de leurs deux associations, d'appuyer l'idée de demander au jury Nobel le prix de littérature pour Karel Čapek et lui suggère d'écrire une lettre dans ce sens. Et Jules Romain écrira effectivement cette lettre. Alors, j'ai montré que Romain et Crémieux ont marché main dans la main et se retrouvaient sur la même longueur d'onde pour infléchir l'apolitisme proclamé des Pen Clubs. Il y eut cependant un moment particulièrement crucial, celui des accords de Munich, en septembre 38, où les deux hommes divergèrent. Il est bien connu que Jules Romain a été munichois à l'automne 1938. Et ses déclarations pro-munichoises publiques, au cours d'un banquet d'anciens combattants fin octobre à Toulouse, répercutées par la presse, provoquèrent une vive émotion au sein du Pen Club tchécoslovaque. Celui-ci envoya un télégramme de protestation à Londres et manifesta son indignation à Crémieux, qui était en correspondance régulière avec la secrétaire du centre tchécoslovaque. Crémieux, comme on le voit dans ses archives, dans cette correspondance avec le Pen tchécoslovaque, affirma ne pas avoir partagé les opinions de Romain et s'efforça d'apaiser ses amis tchécoslovaques et de redresser l'image du président international, disant que celui-ci, ainsi que l'opinion, avait évolué. Et au comité exécutif de Londres, en novembre 1938, où sera lu le télégramme de protestation du Pen Club de Prague, Benjamin Crémieux défendra la thèse que les déclarations de Romain étaient des propos privés et non le fait du président international. Alors, critiqué par certains pour son acceptation de Munich, Jules Romain changea d'attitude après la déclaration franco-anglaise de guerre à l'Allemagne le 2 septembre 1939 et se montra partisan de la résistance. Sous la pression des circonstances, il franchit le pas et appelle à soutenir la cause des démocraties dans la destruction du nazisme. En tant que président international et sans d'ailleurs consulter le comité exécutif de Londres, il envoie une lettre datée du 12 septembre à tous les centres Pen Clubs des pays non belligérants, proclamant l'impossibilité pour la Fédération de rester neutre et demandant une solidarité avec les gouvernements anglais et français. Alors, cette déclaration de soutien aux démocraties alliées provoqua une grave crise avec le secrétariat international de Londres, resté fidèle à une conception stricte de l'apolitisme. Benjamin Crémieux se solidarisa avec la déclaration de Jules Romain en montrant qu'en approuvant l'attitude de certains gouvernements, on ne s'écarte en rien des principes des Pen Clubs. Puis il affirma ses convictions avec une netteté sans faille dans un document que j'ai retrouvé dans ses archives, qui était probablement une lettre destinée à être envoyée et qui a peut-être été envoyée au Pen Club des pays neutres. Alors je la lis et ça sera la conclusion de mon intervention. Une victoire du Troisième Reich hitlérien détruirait toutes les chances de survie qui peuvent rester aux valeurs spirituelles et morales, tant humanistes que chrétiennes, sur lesquelles repose toute la civilisation européenne. Nous faillirons à notre mission si nous nous abstenions de constater solennellement que la défaite de l'Allemagne hitlérienne est la condition nécessaire et préalable pour que les nations récemment rayées par la force de la carte de l'Europe puissent revendiquer leur droit à l'existence, pour que les autres petits pays, en Europe et ailleurs, ne se sentent plus menacés dans leur indépendance, pour qu'un minimum de moralité et de bonne foi puisse se rétablir dans les relations entre les peuples, pour que prennent fin à l'intérieur des États les attentats d'un cynisme croissant contre la personne humaine, justifié par une prétendue supériorité raciale ou par le dogme totalitaire, pour qu'enfin une croisade pacifique en faveur de la tolérance, de la liberté, du désarmement et de l'entente internationale puisse être entreprise avec quelques chances de succès. C'est un des derniers actes que Benjamin Crémieux, fidèle à son idéal d'entente européenne, de médiateur entre les littératures, accomplit comme responsable du Pen Club français, refusant de s'en tenir à une attitude attentiste et apolitique devant le régime hitlérien. Son engagement dans la résistance s'inscrit ainsi dans la continuité du militantisme qu'il a pratiqué dans l'entre-deux-guerres en faveur des libertés d'expression et du combat contre les dictatures, un engagement à la fois modeste et ambitieux, la circulation et la traduction des œuvres littéraires comme facteur de compréhension mutuelle et d'amitié entre les peuples, la défense des écrivains persécutés. Ainsi contribua-t-il à faire vivre la République des lettres en Europe et, pour reprendre une image prémonitoire de Max Ernst, de cette Europe avant la pluie.